Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mathieu, Mohamed, Émilie, Pierre, Patrick. Dans un instant, Lily Collins, Émilie in Paris sur notre plateau, sa première télévision française. Mais tout de suite, le point cuisson de 20h avec du solilès de merlu. C'est bien la première fois que j'entends que ça existe.
Bon, on le trouve qu'au Pays Basque, c'est la cocotte. C'est en Igualdé, au Pays Basque espagnol. Là, je les ai mijotés dans le jus de thym exotique, vous voyez, qui est en train de perler, prêt à saucer. Et là, j'ai la superposition de butternut avec la purée de potimarron kumquat. Si vous voulez vous amuser, Babette, à mettre un petit kumquat, comme je vous ai fait un petit exemple là.
Ah ben, je vous remercie de mettre des exemples parce que
oui. Était parfaite.
Elle est de renommée internationale, ma dextérité. Ça, c'est la recette de Cédric Béchade, notre chef basque de l'auberge basque. C'est à Saint-Pé-sur-Nivelle, magnifique village. Cédric.
C'est un village traditionnel à 10 minutes de Saint-Jean-de-Luz.
Ben voilà, ça, il faudrait bien qu'elle y fasse un tour, Émilie, in Paris. Émilie in the Pays Basque, ça c'est pas mal pour la saison 4. C'est un Paris fantasmé qui sert de décor à l'une des séries les plus vues dans le monde. Des accordéons qui jouent la vie en rose, le café de flore, du vin blanc au petit-déj, des créateurs de mode complètement zinzin, des chambres de bonne sous les combles mais baignées de lumière et hyper confort à milieu de la réalité, mais c'est pour mieux faire rêver de quoi faire l'héroïne d'Emily in Paris pour une troisième saison, l'expat américaine la plus célèbre de la capitale.
Bonjour, it's Emily in Paris. Today is day one of fun employment. I want to know where and what you guys want to see. I am your eyes and ears to this beautiful city. Wow, oh, a lot of you are joining already. Okay, let's see here. I want to see Monet's water lilies. So do I. Can you try Angelina's hot chocolate? Ugh, I do not need an excuse for that, so yes, I will be. And go back to America. No, I think we're done here for now, all right? But my DMs are open, and I will see you there. Mwah! Merci!
Lily Collins est non seulement l'actrice star d'Emily in Paris, elle est aussi la coproductrice aux côtés du célébrissime Darren Star. On lui doit notamment Melrose Place, Beverly Hills ou encore Sex in the City. Elle est ce soir sur le plateau de C'est à vous.
Bravo.
Bonsoir, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. On est ravis de vous accueillir pour parler de la troisième saison d'Emily in Paris qui arrive sur Netflix. C'est le 21 décembre prochain. J'ai binge-watché déjà toute la saison dans son intégralité. J'en crève de ne pas pouvoir débattre avec vous de l'intrigue parce que j'ai des suggestions. Mais bon, ça laisse espérer déjà une quatrième saison qui est déjà annoncée. Vous pensiez susciter un tel engouement lorsque vous avez imaginé le personnage de cette Américaine du Midwest parachutée à Paris pour aider les marques de luxe à se développer sur les réseaux sociaux? Vous imaginiez?
Oh my gosh, you know, I had high hopes.
J'avais espéré, c'est sûr. J'adorais ce que j'avais lu, j'adorais Darren, j'adorais le personnage et j'adore Paris. Alors, cette combinaison pour moi était magique, mais on ne sait jamais. Donc, on était tellement enthousiasmés quand la France a accepté et Paris a accepté. On pouvait revenir pour une deuxième saison, une troisième saison, même une quatrième. Je suis très reconnaissante et j'adore passer du temps ici.
C'est d'abord parce que le décor est ultra romantique, aussi romantique que cinégénique. Versailles, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, mais aussi la Vallée de la Loire, la Côte d'Azur, les champs de lavande de Provence dans la saison 3. Cette France fantasmée, qui est une France de carte postale, c'est totalement assumé.
Oui, je pense qu'on assume chaque aspect de cette série étant fantasmé, mais aussi réel, parce qu'on voit Paris dans beaucoup d'angles différents, on explore le pays, mais en fait, c'est une sorte d'escapade. En fait, on peut réaliser ses rêves, on peut aller à Paris, on ne pouvait pas le faire pendant le Covid, mais maintenant, tout est réouvert de nouveau, et donc on peut vraiment embrasser Paris comme elle se doit.
Vous avez aussi appris à la longue à faire la différence entre la fiction et la réalité. Vous aimez l'humour des Français, les pains au chocolat. Mais quand on vous parle de la circulation, des travaux à Paris, des Français qui fument partout et de la clim qui ne marche pas, ça vous froncez un peu le nez quand même. C'est vrai, c'est la réalité.
Je dirais que cette question de climatisation, c'est un petit peu étrange. Parce que là où j'habite, il y a toutes sortes de températures différentes, mais en fait, on prend comme acquis qu'il y ait de la climatisation. Alors, ici, il fait très chaud en été, et les beaux bâtiments anciens, en fait, n'ont pas de climatisation. Donc, en fait, on aime beaucoup les ventilateurs.
Vous avez aussi la liste de tous les meilleurs podologues de Paris. Après avoir découvert les joies de marcher perché sur des très hauts talons sur les pavés parisiens, on sait que nous, c'est pas possible, ça.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de sommeil dans mes chaussures. En fait, j'essaie de faire en sorte que Emily porte des baskets, mais on a de plus en plus de compensés, donc on va moins trébucher sur des pavés avec des stilettos.
Est-ce que vous parlez mieux français qu'Emily? Parce qu'Emily Cooper, c'est pas encore ça. Elle prend des cours, elle apprend à faire la différence entre connard et canard, ce qui est un peu embêtant quand on les confond. Vous, vous parlez un peu français?
Un petit peu, mais c'est vrai que c'est très étrange. Tout ce que vous dites, j'arrive à comprendre. À peu près même avant d'entendre en anglais. Mais en fait, c'est une question de confiance. Je n'ai pas la confiance ni la capacité à parler aussi rapidement et aussi confortablement que j'aimerais. Donc, je veux continuer à pratiquer. Et en fait, j'ai grandi en parlant en français. Je rêvais même en français. Donc, j'étais très habituée et je parle à mon équipage en français. Quand je ne suis pas fatiguée. Et je commence de nouveau à rêver en français.
Vous savez qu'il y a de plus en plus de touristes à Paris qui ont envie de découvrir ce Paris de carte postale dont parlait Anne-Elisabeth, avec des Emily Tours et des guides touristiques qui commencent en bas de chez vous, place de l'Estrapade, au cœur du 5e arrondissement de Paris, qui passent par la boulangerie moderne, qui est votre boulangerie préférée, qui, paraît-il, est très bonne aussi. On mange réellement du bon pain et des bons croissants, on la voit ici. Vous connaissez ce business, vous avez entendu parler de ce business autour de la série?
Oui, en effet. Je n'ai pas encore fait le tour, la visite. Je devrais peut-être. Mais c'est tellement incroyable. On n'aurait jamais pu s'attendre à autant de succès. En fait, j'envoyais l'adresse à quelqu'un de là où je tournais. Et en fait, j'ai fait Google et il y avait marqué Emily Cooper, l'appartement d'Emily Cooper. Donc sur Google Maps. Donc je me disais, c'est quoi? C'est fou. Donc c'est vrai que c'est vraiment un honneur de pouvoir tourner dans ces endroits iconiques et aussi valoriser des endroits qui n'étaient pas si connus et que les gens fassent la queue devant une boulangerie ou auparavant, ce n'était pas le cas. Je pense que c'est la beauté de notre série.
Vous n'incarnez pas seulement Emily in Paris, vous coproduisez la série, comme Sarah Jessica Parker coproduisait d'ailleurs Sex and the City. C'est-à-dire que vous vous impliquez dans toutes les coulisses, dans l'orchestration de ce projet. Ça dit quelque chose de votre rapport au travail, de votre investissement, tout comme Emily in Paris, d'ailleurs, tout comme le personnage?
Oui, je suis très investie dans la série pour beaucoup de raisons. Quand j'ai lu le script, j'ai vu le caractère et en fait, elle adore son travail sans s'excuser. Elle adore ses amis, elle adore l'amour. Elle est tout à fait, elle aime elle-même, elle s'assume. Elle a beaucoup de points communs avec Emily, avec d'autres. Et en fait, moi, j'ai grandi, je trouve ma voix en tant que productrice et c'est une expérience.
C'est d'ailleurs un peu
de pouvoir collaborer avec d'autres créatifs.
C'est d'ailleurs un peu le message de la série qui a beau être légère, il y a une vraie image de la femme d'ailleurs qui est interprétée par plusieurs femmes mais qui sont à chaque fois puissantes, indépendantes et qui n'ont pas à choisir, pas choisir entre vie privée et professionnelle, pas à choisir entre être romantique par exemple et accro à son travail.
Yes.
C'est tout à fait ça. C'est une très bonne représentation, je dirais, de l'humain moderne. Quel que soit l'âge ou quoi que ce soit, on peut valoriser toute une gamme de femmes différentes dans la série. Donc, mais ça parle de la génération qui aime son travail, qui aime ses plaisirs et qui n'a pas besoin de choisir entre les deux, qui trouve son équilibre et qui accepte totalement, qui assume totalement ce côté-là de soi-même. J'adore Emily et j'adore toutes les femmes de la série.
Les looks d'Emily sont toujours très travaillés. Vous portez beaucoup d'accessoires ou de vêtements de jeunes créateurs. Vous imaginiez être un tel tremplin pour d'autant de jeunes talents?
Non, mais j'ai toujours adoré la mode à partir du moment où j'ai pu m'habiller. J'adore le fait que cette série peut justement valoriser des designers nouveaux et aussi des designers établis, et ça permet de voir de sortir du monde entier. Si je peux valoriser, si je peux mettre en lumière tout ça, j'adore.
Il y a une icône à laquelle vous faites penser, à laquelle vous pensez souvent, c'est Audrey Hepburn. Vous étiez allé comme elle à l'opéra dans la saison 1, si je me souviens bien, c'était l'épisode 6, parce que ça m'avait frappé. Comme le Paris d'Emily, le Paris d'Audrey Hepburn est chic, romantique, un peu chargé, mais en route pour les bateaux-mouches. Ça reste une source d'inspiration, Audrey Hepburn?
Yes, very much so.
Tout à fait.
She is one of the very specific, wonderful talents.
C'est un des talents précis pour moi qui sera toujours intemporel. Elle dit tellement sans même prononcer un mot. Et pour moi, c'est beau, c'est iconique, et en fait, elle inspire toujours. Donc pour moi, c'est un compliment quand on prononce mon nom dans la même phrase, parce que vraiment, je l'admire.
En tout cas, un jour, on pourra écrire sur vous le même livre qu'on avait écrit pour Audrey Hepburn. On disait « Comment être une Audrey dans un monde de Paris Hilton ?» Eh bien, on pourra écrire un livre « Comment être une Lily Collins ?»
Dans un monde de Paris, tout court.
Kardashian.
Kardashian. Ça démarre le 21 décembre sur Netflix, partout dans le monde. Mm-hmm. J'ai tellement peur de divulgâcher que j'ose pas parler de cette saison 3. En un mot, comment vous pourriez la définir, cette saison 3? Moi, je vous laisse la responsabilité de dire ce qu'il ne faut pas dire.
Shocking.
Choquant.
Potentially shocking, yes.
Oui, potentiellement choquant.
Drama.
Drama. À chaque épisode, il y a du drama. Emily in Paris, c'est à partir du 21 décembre sur Netflix, la saison 3. Mais c'était d'abord Emily sur le plateau de C'est à vous. Merci de nous avoir accordé votre première interview à la télévision française.
Merci.
À très bientôt. Merci beaucoup, chère Emily. Merci, Emily. Voilà, Emily in Paris tous les jours.
C'est pas le même Paris.
Every day.
Pourquoi?
Avec les speakers, plus que avec les talons. Merci beaucoup d'être passé par notre plateau. Salut Mathieu, salut Émilie. Je garde les autres, je garde les gars, pour recevoir Mathieu Chédid et aussi Laura Felpin. A tout de suite, juste après le vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
La contestation continue de s'étendre en Iran, jusque dans le sud-est du pays, pourtant très conservateur. Avec ses slogans radicaux, la rue a-t-elle remporté une bataille? Le pouvoir iranien vient d'annoncer le réexamen parlementaire du port du voile et l'abolition de la très décriée police des mœurs.
Le régime tente, par des manipulations, de contrôler le niveau de mécontentement à l'intérieur de l'Iran.
Le pouvoir tyrannique ne tient que autant qu'on lui donne ce pouvoir. Et qu'est-ce qui fait qu'on donne ce pouvoir? C'est la peur. C'est la peur, je dirais, et c'est le silence qui accompagne souvent la peur. Mais retirez la peur et vous retirez au pouvoir sa légitimité.
Sans électricité, la journée s'annonce compliquée. Les coupures de courant pourraient survenir entre 8h et 13h ou entre 18h et 20h au moment des pics de consommation d'énergie.
Que retourner au stade de la lampe à pétrole, c'est compliqué.
Jusqu'à 4 millions de personnes pourraient être touchées au même moment, prévenues la veille à 17h. Juste le temps d'anticiper nos déplacements, certains trains, métros ou tramways pourraient être annulés.
Une polémique entre nécessité économique et préoccupation écologique au Grand Bornand. Faute de neige pour une épreuve de Coupe du Monde de biathlon, la station a mis en place un procédé de stockage de l'or blanc.
Dans les rues, l'éclairage public sera éteint, tout comme les feux de signalisation. Impossible également de faire le plein, les pompes ne fonctionneront pas. Il faudra aussi garder les enfants à la maison. Sans lumière, ni chauffage ou alarme fonctionnelle, les écoles touchées resteront fermées le matin.
Un spectaculaire accident à un passage à niveau dans le Val d'Oise. Un camion benne percuté par un train et ses 120 passagers.
Dans les commerces, oubliez la carte bleue.
Je peux vous payer par cash finalement.
Les appareils de paiement, tout comme les distributeurs d'argent, seront hors service.
Oui,
la tuile.
Ah oui, oui. La tuile.
Pas de café, pas de frigo, pas de chaud, pas de froid. Sans électricité pure, on ferme.
Les antennes relais momentanément à l'arrêt, nous serons privés de réseau téléphonique et d'Internet.
Vous allez partir dans un univers totalement nouveau. Vous vous laissez emporter dans cet univers et dans ce paysage.
Et d'abord, je veux ici vraiment clarifier les choses. Pas de panique.
L'un des problèmes majeurs des Français et des catégories populaires en particulier, c'est le sentiment que les jours heureux sont derrière nous. C'est le sentiment que la notion de progrès a disparu dans nos vies et dans nos perspectives. C'est le sentiment que les enfants, que nos enfants, vivront moins bien que nous n'avons vécu.
Depuis la rentrée, on parle beaucoup de fatigue, d'épidémie, ouais. Voire de flemme, d'épidémie de flemme, avec près d'un tiers des Français qui déclarent se sentir moins motivés qu'avant le Covid et qui se replient sur leur bulle privée, qui ne sortent plus, ne font plus grand-chose. Donc cette neuvième vague-là, elle arrive au pire moment, dans un moment de déprime collective française.
Où en est-on de cette épidémie ?
Alors, on compte 52 908 nouveaux cas confirmés pour la seule journée d'hier, soit 40% d'augmentation en une semaine.
Une petite bise. Allez, quand même, on a le droit maintenant.
Pas la nouvelle année, vous rendez compte ?
Mais parce qu'imaginons qu'on puisse...
Ah ben non,
Il y a sur le chien l'interdiction un petit panneau en disant, enfin un petit comment dirais-je, un petit t-shirt on va dire, voilà, pour dire ne pas le caresser.
Non.
C'est une consigne, alors que vous m'avez dit, moi on peut me caresser mais ça dépend qui, c'est ça hein.
Exactement. Mais je t'ai bien interdit pour toi.
Oui, j'ai bien compris. Porte-parole de la Fédération Française de...
Si ça avait été Sophie peut-être.
De, j'ai compris, merci. Merci.
Les Français font moins d'enfants qu'avant. En octobre 2022, 1940 bébés sont nés, c'est 10% de moins qu'en octobre 2021. La baisse se vérifie en métropole et en Outre-mer, sauf à Mayotte.
On a tous en nous encore un petit bout d'enfant qu'il faut protéger. On a dans notre cœur.
Ça c'est clair, Nagui, toi t'as un petit bout d'enfant,
ouais,
ça c'est sûr.
Non mais en tout cas...
Jean-Luc Larré aussi.
Non.
Pourquoi les Français ne font-ils plus d'enfants ? Nous sommes allés le demander. Première raison invoquée, la peur du futur.
Je me questionne sur quel monde on va leur laisser. Et je me dis, avec les changements climatiques et tout, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire des enfants ?
Puis eux s'apprêtent à passer 40 jours dans la jungle. Ces volontaires s'envolent demain pour la Guyane. Objectif, étudier l'impact de la chaleur sur nos organismes et les préparer au réchauffement climatique.
Ils ont besoin de vous.
Et une génération très féminisée, si je peux me permettre aussi. Bravo.
Exactement.
Mesdames, merci. Et puis on peut encourager aussi les garçons à poursuivre leurs études. Et
pas vous mentir, Nagui, ça donne très envie d'être chercheur quand même. Hein.
Mais non, mais toi tu cherches autre chose, toi, laisse tomber.
Moi, je suis à fond, à 1000, 10 000%.
Allez les bleus.
Quelles sont les inspirations de Griezmann?
Et pardon, je peux t'aider.
Le score final, mon cher Cavella, 78 051 91 euros, plus fort que l'année dernière.
Ça cache, Mbappé.
Oh oh, encore, toujours, cette fois-ci c'est la lucarne opposée.
C'était le 8 juin 2022. Mathieu Chedid nous offrait aux côtés d'Anne-Gaël Dorsay une sublime reprise de Space Oddity. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. Space Oddity ou encore Life on Mars, deux titres qu'on trouve sur l'édition augmentée du 7e album de Mathieu Chedid, David Bowie à l'honneur, mais aussi Joe Dassin.
à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi.
Salut Mathieu Chédid.
Bonsoir.
Bonsoir. On est tellement content de vous recevoir. À toi, Joe Dassin, c'est l'un des 6 nouveaux titres bonus de Rivalité Augmentée, disponible depuis le 25 novembre dernier, que vous chantez sur scène, toujours en duo avec Gaëlle Anne, que j'ai appelée Anne-Gaëlle.
C'est beau aussi.
Voilà. C'est tout vous, ça, de passer de Bowie à Joe Dassin.
C'est inconsciemment, en fait, un signe, quoi, c'est pour dire, c'est pour parler de l'ouverture d'esprit. On est en plus en France, un peu dans un petit monde qui est, où on a tendance on est un peu coincé, je trouve, en France,
un
par rapport
snob.
À ça. Je sais pas, ouais, un peu mental, quoi. Tout est très analysé, très intellectualisé. Moi, c'est la vibration qui m'intéresse de plus en plus. Et quand quelque chose me touche, quand je suis ému, je cherche pas, j'analyse pas, je vis le moment.
Cette chanson-là, c'est Sylvie Testu qui vous en a parlé. Vous la connaissiez pas plus que ça.
C'est vrai qu'elle voulait que je, sur une scène particulière d'un de ses films, elle avait une vision comme ça avec cette chanson. Elle m'a dit à toi et je ne connaissais pas ce morceau qui m'a immédiatement ému. C'est vrai que Joe Dassin a cette chose comme ça très émouvante, ce côté très honnête, quoi, très. Et qui transperce par ses paroles très simples et en même temps évidentes. Il y a quelque chose qui me parle. Ouais,
c'est un grand romantique comme
c'est
vous.
C'est ça, c'est complètement ça. Ouais. c'est vrai, on peut dire ça, oui. Ouais.
Il y a une chanson que vos fans ont dû apprendre plus vite que les autres, c'est celle que vous avez invité, que vous.
Pour laquelle vous invitez.
Voilà, une chanson.
C'est pas évident à dire parce que
c'est. Une chanson pour laquelle vous invitez vos fans à venir sur scène à chanter avec vous. C'est ça. On va voir quelques extraits de vos spectacles.
D'accord.
Pourtant, sais-tu qu'à chaque seconde. Le monde relie à un fil nos petits nombrils.
Allez, chauffez-vous, Anthony, s'il vous plaît, un peu.
Nos petits nombrils.
C'est pas n'importe qui, ils sont sélectionnés sur casting, c'est ça, ils envoient des vidéos.
Non, en fait, c'est vraiment tout simple. Tu sais, les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça, à inventer des choses. Et puis j'aime bien l'idée de l'interaction avec le public. Donc j'avais envie d'aller plus loin. Donc effectivement, c'est des vidéos que les gens envoient chez eux, généralement dans leur salon. Et c'est des rencontres. C'est, en plus, c'est étonnant parce qu'on a tous les corps de métier. On est, je sais pas, il y a une, évidemment des professeurs de maternelle, une orthophoniste, je crois, etc. Et c'était hyper beau parce que il y a des gens. Ben elle justement, elle avait jamais chanté de sa vie sur une scène et même son mari ne savait pas qu'elle chantait, donc c'est assez joli. Et ça crée des moments, un petit quart d'heure warholien comme ça où on vit des moments uniques et très humains, quoi. Et ouais.
Voilà. Désolé, on a eu l'idée de faire passer le casting à l'équipe de C'est à vous.
Ah, génial.
Il y a un fil, petit nombril, nos petits nombrils. Nos petits nombrils. Nos petits nombrils.
Voilà.
C'est beau, ça.
Ils ont été sélectionnés pour monter sur scène avec vous ?
Non. Non, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai besoin quand même qu'il y ait on fait quand même un spectacle. Donc, il faut qu'il y ait quand même un sens du rythme. Ah non, mais moi, tu sais, je suis intraitable. C'est comme je faisais à l'époque le gimmick, où j'invitais des gens comme ça à monter sur scène. Et je leur disais, non, mais par contre, les gars, vous montez sur scène, on leur mettait la lumière, leur couleur préférée et tout. C'était vraiment un moment pour eux, mais par contre, il faut assurer un minimum, quoi. Mm. Donc, dans le sens où je le fais qu'avec des gens qui assurent, et je pense qu'on va le faire ensemble, c'est ça ou pas ? Tu es prête ? Alors, je vais mettre mes petits ears.
Moi, j'ai été sélectionnée sans passer le casting. Mais c'est là où peut y avoir. Merci beaucoup. Hein.
Ah non,
accompagné par Fabrice Cubin aux percussions, Maxime Garout à la batterie, Corentin Pujol au clavier et Gaëlle Anne Dorset à la basse si j'avais su un jour que je chanterais en duo avec Mathieu. Accompagné
oui, c'est pas
par
mal,
une
bassiste
de légende comme Gaëlan, je sais pas si j'aurais accepté.
Et puis non mais en plus, je sais que t'assures, c'est pour ça qu'on fait rien. On y va.
As-tu des nouvelles du monde? Ont-elles débarqué sur ton île?
Non.
Es-tu penché sur les ondes? Ou bien es-tu resté tranquille?
Pas trop.
À des kilomètres à la ronde, je sens bien que tout est fragile.
Ah oui.
Pourtant sais-tu qu'à chaque seconde le monde relie à un fil nos petits nombrils.
J'ai rêvé de ça, quoi.
Moi, si je peux me permettre, tu as un très beau nombril.
Oh, merci, Mathieu.
Ouais.
Ce qui est formidable, c'est que cet album, avant même qu'il ne sorte, vous le défendiez déjà en concert et vous appreniez littéralement les chansons au public venu vous applaudir. Et c'est extraordinaire parce qu'on apprend à chanter, on apprend à bouger, on apprend à s'ambiancer et on se prend tous pour des chanteurs quand on va... applaudir Mathieu. Vous avez bien fait de me choisir.
Qu'est-ce que vous en pensez, c'est pas mal, non?
Ah bah c'est super.
C'était super,
très bien. Ouais, très bien. Mais je sais pas comment on va finir l'émission maintenant. C'est un problème.
Ah bah je vous prends pour une rockstar.
C'est fini, là. C'est fini, on l'a perdu. Hein.
Ah bah oui.
Vous l'avez enlevé, là.
Non mais Mathieu, comme on vient de le vivre, en fait, vos concerts sont toujours des moments de communion. Il y a une ambiance formidable. Et ces moments que l'on vit aujourd'hui avec Babette, que l'on a vécu hier durant vos concerts, ça date pas d'hier.
Les concerts, bien sûr, c'est toujours une communion, mais chez M, la scène devient un plancher de balles.
J'ai besoin de l'écho, j'ai besoin de l'échange, quoi. C'est comme si je jouais au ping-pong tout seul. Alors on peut jouer tout seul quand on rabat l'autre côté, mais c'est moins drôle, quoi. Voilà. Moi, j'ai besoin de l'interactivité, du jeu, du côté ludique et enfantin des choses.
En fait, un concert pour vous sans la fusion entre la scène et la salle, c'est un concert raté.
Le
genre de fusion qu'on vient de vivre.
Mais j'ai même envie de dire que si je le. C'est même en émission de télé, etc., j'en fais assez peu et tout. Mais j'ai envie de vivre ces moments-là de fusion aussi. C'est-à-dire que sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interaction. Je crois que c'est ça qui me fait vibrer. Et évidemment, j'espère de ramener quand même de la musicalité et d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est ça qui crée la magie. Et qui fait que les gens viennent encore voir mes concerts aujourd'hui.
Merci.
Il y a 20 ans, Mathieu, vous composiez votre première musique de film, c'était pour Peau d'Ange. Ouais. Depuis, vous avez fait 12 musiques pour des films ou des séries. Et la dernière en date, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui sortira en salle le 1er février prochain. Casting, vous faites partie d'un casting dingue, avec Guillaume Canet, à la fois réalisateur et comédien, Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Jonathan Cohen, Angèle, en passant par Zlatan, Ibrahimovic et Big Flo et Oli. Ouais. On vous retrouve sur le tournage. À un moment, sur scène, vous êtes donné beaucoup de plaisir et vous en avez donné tous les trois.
Ok, je prends le mic, je le fais à l'envers et à l'endroit. 2021, je rappe dans un village gaulois. Arrêtez avec vos portables. Tu le sais, frérot, j'ai pas le flow plané. J'en place une pour M, Big Flo, monsieur Guillaume Canet. Frérot, je suis pas au ralenti. Big up à Joko et à mon frérot Ramzy.
C'est Astérix et Obélix. Et là aussi, vous êtes replongé dans le monde de l'enfance pour composer cette bande originale.
Oui, c'est vrai, dans ses souvenirs d'enfance. Et donc, ça m'a immédiatement fait penser à Vladimir Cosma, parce que c'est évidemment, ça appartient à ces grandes comédies françaises.
Il en a fait 20, des centaines.
En plus, j'ai eu la chance, c'était complètement incroyable, la synchronicité, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer quelques mois au moment où je commençais à composer et à faire ce film. Il est d'ailleurs venu me faire l'amitié, il est venu en studio un jour, pendant une séance de cuivre, où il y avait je ne sais pas combien de 40 cuivres, c'était assez impressionnant. Et c'était très joli parce qu'il m'a donné entre guillemets sa bénédiction sur le thème et tout. Ouh. Lui qui est quand même, et il m'a regardé à un moment, il m'a dit, avec son accent que je ne pourrais pas imiter, je m'aperçois que c'est la première fois de ma vie que je suis dans un studio pour autre chose que ma musique. Donc ça prouvait en tout cas un moment, une sorte d'amitié, c'est peut-être osé dire ça, de transmission exactement. Et donc ça m'a vraiment touché. Et donc j'ai évidemment essayé avec mes petits moyens, parce que c'est quand même un art de faire ça. Mais alors moi j'ai un peu la chance du débutant, c'est-à-dire que je fais avec beaucoup de naïveté, mais voilà, d'essayer de trouver un thème. Il y a deux thèmes récurrents dans le film, et pour moi l'ambition de ce film, enfin en tout cas d'une comédie, c'est de sortir avec un thème. Donc voilà, j'espère qu'on a réussi à faire ça. Mais c'est une aventure extraordinaire, un exercice de style aussi. On passe de la musique chinoise à la musique celte, en passant par plein de styles.
Le voit demain. Ouais. Je vais découvrir les deux thèmes.
Et puis dans un instant, on reçoit à la table du dîner, c'est à vous, une jeune comédienne humoriste qui présente sur scène son premier seul en scène, qui joue dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'est Laura Felpin.
Oui, que j'adore.
Ah bah voilà, ça tombe très bien. Rivalité augmentée, c'est sorti le 25 novembre dernier. On peut encore postuler pour faire des duos avec vous, parce qu'il y a plus d'une centaine de dates de concerts à venir. Donc 4 Zéniths du 20 au 23 décembre à Paris, 3 Accord Arena.
Tu peux postuler pour les Zéniths de Paris.
Je peux postuler. Ouais.
Et nous aussi
on Je vais encore. Le faire.
Oui, évidemment. Okay. Fais-le.
Mais je viendrai sur scène et tout.
Bah oui.
Oh là là. Je vais venir, attention. Ok. Je vais faire un Zénith. J'annonce. Bon, on va vous entendre surtout chanter pour de vrai sur scène aux côtés de Gaëlle Anne pour cette reprise de Joe Dassin. À toi. D'ici Lazo et Bruno, j'étais à ça. Merci Mathieu. Merci.
J'étais à ça. Et trois qui font 10, ma petite Virginie. Et joyeux Noël, Noël.
J'adore Noël. T'as hyper bien décoré, hein.
Ah, t'as vu? Je suis content que ça te plaise, hein. Bon, là, par contre, je me suis dit, cette année, tu fais sobre.
Moi aussi, je voulais recréer la magie de Noël à la maison. Faire un truc beau pour faire plaisir à Victor.
Ah, Victor, viens voir le sapin.
Assassin ! T'as tué un arbre !
T'as tué un arbre ? Non mais tu te rends compte de la conscience écolo des gamins aujourd'hui ? Quand j'étais petite, j'injectais du désherbant à des limaces pour voir si elles explosaient. Non mais les temps ont changé. Hein.
Du désherbant à des limaces ? Enfin, c'est horrible, Zoé.
Bon, en tout cas, j'ai évacué le sapin et j'ai racheté un arbre, mais en kit, en plastique, recyclable.
C'est quand même bizarre que ça ne suive même pas la logique d'un tronc avec des branches. Ça va en haut ou en bas, ça?
En bas.
T'es sûre?
Non.
Ok. Passe-moi le module B12, s'il te plaît.
B12B ou B12C?
B12A.
Il n'existe pas.
Bah si. C'est écrit.
Mais enfin, c'est hyper déprimant. Genre le truc, tu le démontes, tu le ranges dans un placard et tu le ressors l'année d'après.
Exactement. Wow. Et tu le re-remontes.
Oh bah super, l'esprit de Noël. Bah sois pas négative, hein. Déjà ça tient debout.
Ouais, t'as raison. Je vais pas me laisser abattre. Tu l'as, le jeu de mots?
Bah, Bah non. Ah bah non, t'as raison.
Je voulais mettre mes belles décorations, mais c'était sans compter sur la maîtresse qui nous flingue nos Noëls. Mon cœur, à table. Ta-da!
Ah non, hein. Ah non, non, bah, on peut plus les mettre, il n'y a plus de place, là.
Oh, mes belles guirlandes qui vont servir à rien. Pff, bah merci, la magie de Noël. Hein. Et moi, j'étais à ça d'avoir un beau sapin.
Mathieu Sédid sera le 6 décembre demain à Strasbourg, le 7 à Montbéliard, le 8 à Genève. Et je ne peux pas toutes les égrener parce qu'il y en a jusqu'au 18 juillet 2023 au moins. Mais là, tout de suite, il est sur le plateau de C'est à vous pour une reprise de Joe Dassin à toi, avec évidemment Gaëlle Anne d'Orsay. C'est à vous. Je me mélange.
D'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes regrets, à tes anciens princes charmants. À la vie, à l'amour, à la nuit, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons quelquefois. Autant que je passais à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes yeux de paladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous rassemblera, qui sera à la fois toi et moi. Souvenez que nous allons nous faire à l'avenir et au présent, surtout à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces milliers d'amants qui sont comme nous.
Sur scène, je suis à 2000%. Non, là, c'était pas moi, voilà. C'était mieux. Bravo, bravo, Gaëlle-Anne.
Merci, Gaëlle-Anne.
Merci,
bravo,
Mathieu. Merci, oh là là, bravo. Quel plaisir. Donc, je ne vous présente pas Laura Felpin.
Non,
vous connaissez bien.
Non, on ne se connaît pas personnellement. Je crois que tu connais un peu ma sœur.
Je connais un peu tout le monde, ouais. Ta sœur, ta fille, ton père, ouais.
C'est ça, tu vois. Voilà. Donc, c'est ça, on se connaît.
Salut, Charlera. Ravie de vous recevoir. Bonjour. Pour votre premier salle en scène. Oui. Ça passe, qui se oui. passe très bien.
Qui se passe pas mal.
Qui se passe très bien, puisqu'après avoir joué à la Comédie de Paris à guichet fermé, oui. vous reprenez cette fois-ci au théâtre des Mathurins, qui est deux fois plus grand. Mm-hmm. Donc, comme disent les jeunes, ça passe crème.
Ça passe crème.
Ça se dit encore en 2022.
Je suis pas sûre. Ah, ouais, voilà. Je sais pas si on est encore jeune comme ça, mais.
Ça passe, ça passe.
Elle est odieuse. Venez vite, cher ouais, Cédric Béchade. Pardon, il faut arriver au pas de course parce qu'on est timé. Chef du relais Château l'Auberge Basque à Saint-Pé-sur-Nivelle. C'est dans les Pyrénées-Atlantiques pour les jeunes qui ne connaissent pas bien la géographie. Et ce soir,
un. PA, comme on les appelle.
Le coco de chasse.
Le coco de chasse, parfait, prononciation impeccable, qui voilà. est un produit emblématique. En Égualdé, au Pays Basque espagnol, que j'ai cuisiné au thym exotique, on le fait d'habitude à l'ail et au persil, avec ses courges au kumquat. Voilà.
Au kumquat, merci beaucoup. C'est quoi déjà le kumquat? Ah oui, c'est ce que
c'est
j'ai
celui
mis par
vous avez disposé. Voilà, j'espère que ça beaucoup. Sera aussi dynamique moi, que le tube de Mathieu.
Moi j'ai chaud, je ne refroidis pas depuis tout à l'heure. J'ai 100 000 degrés. Impression d'avoir fait l'amour. Non mais c'est un truc de dingue. Hein.
Bon ben on va. Allez, allez.
Pardon.
C'est
vrai. C'est très Laura, pour vous présenter à nos téléspectateurs, vous êtes donc jeune.
Non, c'est pas vrai. En plus,
vous êtes alsacienne, vous avez grandi dans la banlieue de Mulhouse. De quoi vous inspirez certains de vos personnages qu'on retrouve sur scène, la fameuse Vanessa Poteau, vendeuse du Sephora de Mulhouse, qui a d'abord vécu sur les réseaux sociaux, mais aussi Laetitia, l'influenceuse. Ah oui.
Bonjour madame, désolée de vous importuner en fait, je vous appelle parce que vous m'avez envoyé un courrier concernant un avertissement et là vous avez bloqué ma carte de crédit donc j'aimerais quand même vérifier qu'il ne s'agisse pas d'une erreur par rapport au compte, ouais. Oui, Laetitia Goulard, G-O-U-L-A-R-D. Hein? Oui, ça c'est bien moi les boules, c'est moi ça, oui effectivement. Sephora également, oui, en creux de peau, c'est ça. Oui, Cartine aussi, ouais j'ai fait Cartine, ouais. D'accord. Bon, bah, c'est moi, alors, hein. Et vous allez bloquer la carte jusque quand, juste? Jusqu'à ce que je remette l'argent dessus, en fin de compte. D'accord.
Laetitia Gouna ou encore Vanessa Poteau, elles ont des prénoms et des noms de famille, ces personnages. Ouais. Mais ouais.
Ils sont venus parfaitement au hasard, en fait, je crois. Hein. Enfin, ils m'inspirent parfois des formes, des poteaux. Elle était très, très, très là, quoi, très présente. Et Goulard, j'aimais bien Goulard, je trouve que c'est très sympa. C'est un peu la nana de la compta, en même temps elle est mignonne et il y a trop de trucs. J'aime trop Laetitia Goulard. C'est
mais vous les aimez tous ces personnages que vous incarnez sur scène.
Ah, je les adore. Bah, je me fais rire, c'est un peu ridicule, mais je les adore. Et Laetitia Goulard, je l'aime particulièrement et j'ai beaucoup de mal à la faire sur scène parce que vraiment elle
vous
me fait rire en fait.
Bah oui, elle existe indépendamment de vous.
Oui.
Ça passe, ça parle de quoi? De la bizarrerie un peu qui nous entoure, qui est en chacun de nous, de nos complexes, de nos étrangetés.
Ça parle un petit peu de pourquoi on parle toujours des autres, comme si en fait on pense qu'on n'est jamais les autres. Et en réalité, on a toujours un peu cette caractéristique commune qui nous... On arrive toujours à trouver des petits liens et des petites choses qui se tissent entre nous. Et c'est ça dont j'avais envie de parler, en fait. De ce truc que je me dis tout le temps de... Ah, mais c'est pas vrai, lui, quelle posture prend cette personne? Quelle posture prend cette personne? C'est ça qui m'intéresse.
Alors qu'on le fait tous un peu, quoi.
Toujours, toujours.
C'est un complexe, parce qu'on parle des complexes, des bizarreries, etc. Oui. C'est un complexe qui a encouragé votre pulsion de faire rire. Ouais. Cette petite fille qu'on voit là à l'affiche de votre spectacle, elle cherchait à être rigolote pour faire oublier ses lunettes, c'était ça?
Ah oui, bah j'ai eu un très gros strabisme pendant très longtemps. Cette affiche, elle a été dessinée, mais elle est inspirée d'une vraie photo où j'étais au CP et où c'est une photo que j'aime bien parce que j'avais les yeux droits, ce qui était assez rare sur les photos à cette époque-là. Et moi, je suis une enfant de je sais pas, 20 ans d'orthopsie, quoi. Donc, j'ai essayé de rentrer des perroquets dans la cage qui ne sont jamais rentrés. Et en fait, c'est plus tard, en faisant une thérapie, évidemment, que je me suis rendu compte que, effectivement, probablement que j'avais voulu être très rigolote parce que j'avais ce complexe-là, quoi. C'est quelque chose, le regard, quand même, quand on ne voit pas droit, quand on a l'impression de ne pas pouvoir regarder l'autre. Et je suis comédienne, donc c'est quand même pas le truc plus facile.
Avec maman clown.
Oui, oui. Une maman intermittente.
Clown. C'est exactement. Extraordinaire, parce que je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup des femmes clowns.
Non, c'est vrai. Elle est très rigolote, elle est très marrante. Je ne peux rien dire d'autre.
Elle est clown, une circassienne, comme on dit.
C'est une vraie babosse, ouais.
Comme Raphaël de la compagnie circassienne.
Pas loin, en fait. Exactement.
C'est l'un de vos personnages sur les réseaux sociaux.
Par exemple, ça, ce sont les habits de ma mère.
Ah bon ?
Et quand je lui ai demandé ses habits, elle m'a dit « Je ne vois pas pourquoi c'est rigolo. » Particulièrement ces chaussures-là.
C'est le sarouel. Et donc, on peut penser que c'est ce personnage-là qui a donné l'idée à Jonathan Cohen de vous proposer le rôle d'Annick.
Carrément le penser, ouais.
Dans Le Flambeau, rôle sur mesure.
Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au spectacle des arts de rue.
Annick est intervenante de cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord.
Ah, la vida, que loca, loca sta vida. Approchez, messieurs, dames, c'est gratuit.
Je fais cette aventure avant tout pour la communauté.
Mais aussi bah, parce que j'ai deux petites adorables bestioles, Friki et Friquette, et qu'elles seraient pas contre un peu plus de croquettes.
Annick, qu'est-ce qu'il a dit sur les feuilles?
Il a dit tu les prends, tu vois, comme ça, tu les roules comme ça en forme de didgeridoo et tu te les fous dans le cul, Carole.
Ouais, Annick, qu'est-ce qui t'arrive là? T'es folle ou quoi?
Pas me casser les couilles longtemps, l'autre connasse.
Annick, détestée par les autres candidats du jeu.
C'est vrai.
À l'hygiène douteuse.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Vous pensiez que ça aurait autant de succès, votre personnage là?
Pas du tout. Et c'est arrivé un peu à retardement, en fait. La série est sortie, ça a mis un peu de temps. Et un jour, mon petit frère, qui pour le coup, lui, est vraiment jeune, m'a dit. Mais t'es devenu un mème sur Twitter. Et je ne savais pas de quoi il parlait. Et effectivement, Annick, elle a vachement marché après le flambeau et maintenant je vois plein de jeunes qui viennent à ma rencontre avec des, cette chanson improvisée devant ce
supermarché. Et qui sont pas habillés pareil.
Pas du tout, ah pas bon, du tout.
D'accord. Mais qui vous parlent mal comme les candidats vous parlez mal. Les candidats
ça peut arriver dans la rue, on m'a déjà appelé plusieurs fois sac à crotte, ouais. C'est pas recommandé, pas chaudement recommandé. Mais les gens sont quand même plutôt sympas parce qu'elle est quand même vraiment sympa, Annick.
Mais bien sûr.
Trop.
Ils sont quand même sympas, ouais.
Trop. Formidable série de Jonathan Cohen.
Votre humoriste préféré, c'est Florence Foresti. Vous avez partagé la scène avec elle c'est au vrai. César 2020. Et vous, Laura, vous présentiez le César du meilleur son.
C'est vrai.
Pas regarder les films sélectionnés parce que je veux pas me faire influencer par les images d'Aflo. Rapport à la qualité du son. Est-ce qu'on est en Dolby Digital 5.1? J'ai fait une entrée en mono, une sortie en stéréo. Je suis même allée jusqu'à repercher les sons, messieurs, mesdames. D'accord? D'ailleurs, en parlant de perchistes, il y en a quelques-uns dans la salle que j'ai coaché. D'accord?
Perchman,
perchiste, exactement la même chose. Tu veux que je te dise pourquoi? Ça fait appel au même groupe musculaire. Viens avec moi, Flo, on va faire une petite démo. On est tout doucement sur ses flexions, ferme les yeux. On va peut-être porter une intention à notre pratique du jour. Tranquille, on va venir introverser le nombril, rétroverser le bassin, rentrer le sphincter, ouvrir le thorax et on va venir percher. D'accord? Et on va venir percher. Hein? Et là, je peux te dire que sur un kéchiche, avec des scènes de 60 minutes de cunnilingus, t'es content d'avoir les ischios solides, ma
soeur. C'est
pas
faux.
Hein? David Adel!
Il en faut.
Et Florence, vous avez vu à la télé, elle a senti l'affiliation.
Un peu, ouais. Ouais,
et maintenant, vous jouez au Scrabble ensemble.
Ah, exactement, au bananagramme. Et je peux vous dire qu'elle en tient une couche. Hein.
C'est vrai.
Elle est plutôt pas mauvaise.
Mais c'est assez quoi, rare de jouer avec elle.
Bananagramme, c'est comme une sorte de petit Scrabble pour vieilles personnes. Il faut aller très vite comme ça. Et elle excelle en la matière.
Après le bac, vous avez fait une formation dans les arts et le spectacle.
Oui.
Et votre premier boulot, c'est du doublage et des voix off. Vous avez doublé les personnages de Grey's Anatomy, mais aussi des candidats de télé-réalité américaines.
C'est vrai.
C'est une belle formation, en tout cas.
C'est une très jolie formation.
Je crois qu'on vous chambre un peu dessus.
C'est vrai que j'ai fait beaucoup de doublage. Moi, j'adorais ça. J'aime encore vraiment beaucoup ça. Et j'ai fait, à un moment donné, un programme qui s'appelait Rich Housewife of Beverly Hills, je crois. Et là, c'était terrible parce que c'était une télé-réalité où elle faisait que se disputer... Elle faisait que se disputer pour du champagne qui était servi dans les mauvais vins, etc. Enfin, c'était des trucs un peu surréalistes, mais c'était très marrant à faire. Après, parfois, 12 heures par jour dans un studio dans le noir à faire des Rich Housewife of Beverly Hills, c'est pas hyper marrant. À la fin, on n'en peut plus.
Mais vous arriviez à mieux jouer la comédie que les personnes, actrices originales.
Bah, c'est pas très compliqué pour... dans ce genre de programme, en tout cas.
Et dans le film de Guillaume Canet, vous jouez quel rôle, alors?
Je joue le rôle d'une danseuse, la danseuse en chef de Vincent Cassel, donc de Jules César, qui s'appelle Carioca, et qui vient un petit moment pour des revendications quant à ses vêtements.
Bon. Ça passe, c'est bien au Mathurin, parce qu'on m'a dit que j'avais dit une bêtise. Non, c'est au Mathurin, jusqu'au 17 décembre. Vous êtes en tournée dans toute la France à partir de janvier 2023 et au Trianon du 1er au 3 juin. Vous venez d'ouvrir parce que c'est complet les Mathurins, si j'ai
c'est
bien
compris. C'est ça, exactement, ouais.
Ah ouais, tranquille,
j'ai trop de chance.
Bah, bravo.
Trop
Donc contente. Si on ne dit pas crème, on dit quoi alors?
Flemme.
Ça passe.
Franchement, je ne sais pas.
Ça se dit
c'est
encore.
Lourd.
Ça se dit.
Non, c'est lourd. Clairement,
je pense que ça se dit encore. Ça,
non,
passe
ça, dit, non, ça, dit, oui. ça se dit encore.
Mais moi-même, j'ai plus 20 ans, donc je ne sais plus
quel
en réalité.
Âge, en fait,
j'ai 33 bientôt. Mais non, mais donc je veux dire, j'ai pas non plus 20 ans. Alors, non, c'est mais là, vrai. On est dans des expressions que moi-même, je ne connais pas. Hein. Comme c'est carré dans l'angle, c'est incre. Ça, c'est incre, vous savez
non.
ce que ça veut dire
non.
C'est incroyable. C'est vrai.
C'est une dingue, quoi.
C'est
incre.
C'est incre, ça veut
c'est
dire que
Laura
c'est incroyable.
C'est Laura Felpin au Théâtre des Mathurins, ça passe. Pas crème parce que ça fait vieux.
Et c'est trop
mais
stylé.
Mais ça passe tout court et c'est trop stylé. Ah merci, cher Laura, d'être venue
merci
ce soir.
Merci beaucoup.
C'est batte, quoi.
C'est extra. C'est extra chouette.
C'est extra.
Merci beaucoup, cher Laura. Et je vous offre l'album de Mathieu que vous n'aviez pas,
voilà.
peut-être. Exactement.
Je suis venue juste pour
quelle
ça.
Chance.
Voilà. Faites un casting, Laura, pour voir si vous seriez meilleure que moi dans le nombril.
Oui, mais ça c'est-à-dire que je l'ai vexé quand même.
On peut pas déconner, hein. On n'a pas le droit de déconner, hein. Non. Merci beaucoup, chère Laura. Merci, Mathieu. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand.
Ah. Alors, entendu, belle.
Bonsoir à la une de ce 5 décembre de la littérature. L'info est tombée peu avant le début de l'émission. Le chanteur Francky Vincent a été nommé chevalier des arts et des lettres. J'ai envie de dire... Enfin, il était temps que le ministère de la Culture reconnaisse la plume de celui à qui l'on doit des textes puissants tels que, je cite, « du boudin, des acras, des merguez et du mouton, et après, qu'est-ce qui se passe ? tu pues du cul. Tu pues du cul. Tu pues du cul. Ou bien encore, tu veux mon zizi ? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Oui, 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 oui. Sans oublier ce pilier du panthéon de la littérature qui restera à ce titre.
Point qui fait sans le restaurant, c'était un rêve à réaliser.
Avec un personnel. Et oui, restons dans la finesse et prenons des nouvelles de l'envoyé spécial de CNews pour la Coupe du Monde. Là, j'en suis dépassé par les événements. Jacques Vendroux. Et plus les jours passent, moins les Skype de tonton moustache ont de sens.
Bon. Est-ce que vous m'entendez là?
Ah ben là, je vous entends très bien.
Le 28 novembre dernier, sur cette même chaîne, un facétieux chroniqueur du service public imaginait ça, en déconnant. À part faire un duplex à dos de dromadaire en se servant un tel amande, je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus. Eh bien, ce qui était une simple vanne en retour plateau est devenu un duplex réel ce matin. Oui, il l'a fait.
Regardez, il y a tous mes amis chameaux et dromadaires qui ont reçu très très gentiment.
Mais sur CNews, qui est une chaîne de débat, on débat, mais on débat de tout. Voici donc ce que le duplex de Tonton Moustache a provoqué sur le plateau.
Rappelez-moi le nombre de bosses.
Il y a le nombre de bosses.
Le chameau a deux bosses, je pense, oui, et le dromadaire a une bosse.
Et les Anglais emploient le même terme.
C'est l'inverse, je crois, c'est l'inverse.
Ah. Non, le dromadaire a une bosse.
Le dromadaire a une bosse.
Moi, j'ai vu deux bosses sur la image qui était à côté
de chameau. Est-ce qu'on peut voir, avant de voir le jingle sur Jacques Vendroux, Jacques Vendroux, on va voir Jacques.
Il me semble qu'il y a deux bosses.
Ouais, oui, attends, janvier, février, non, inverse, ça n'a rien à voir. Moi, remets-moi une fusée, un tac au tac. Alors, petit moyen mnémotechnique, le chameau a deux syllabes. Chameau, donc deux bosses. Anticipation de pas de patrouille. Patrick va me répondre que le dromadaire n'a pas trois bosses. Mais à partir du moment où on sait que le chameau en a deux, on en déduit que le dromadaire n'en a qu'une.
Je vais noter ça.
À part ça, hier, dimanche, JBB, Jean-Baptiste Boursier, proposait un nouveau numéro de son nouveau rendez-vous. Invité du Camoulox politique de BFM, le ministre de la Santé, François Braun, qui a pris le jeu très au sérieux. On n'a rien touché à son temps de réflexion. Vraiment, il croyait qu'il jouait pour le palier des 300 000.
Oui, monsieur Braun. Vous connaissez le principe. Je vous montre maintenant trois photos liées à l'actualité. Derrière chaque photo, une question.
Cacamou, cacamou, cacamoulax.
Un service de soins palliatifs. Une petite plaque sur laquelle est marqué McKinsey et des paquets de cigarettes. Ah. Quelle première photo choisissez-vous?
C'est n'importe quoi.
Les paquets de cigarettes.
Ouais, je choisis les paquets de cigarettes. Et non, vous ne pouvez pas, il y a François Mitterrand en tricycle dans la diagonale. 3 secondes de force de l'esprit.
3 secondes de l'esprit.
Le Camoulox qui a vraiment contaminé toute la rédaction de BFM TV.
Ah oui.
Est-ce que votre voiture est bien équipée? Y aura-t-il, tiens, des trains à Noël et à quel prix pourra-t-on partir? Va-t-on tous remettre un masque? Nicolas Sarkozy ira-t-il en prison? Et puis le compost sera-t-il obligatoire, y compris en appartement?
Très bien, mais devez-vous mettre des pneus neige? Faut-il acheter un sac à sapin, fromage ou dessert? Annie, tu reprends un petit peu. Très bien, Nicolas Sarkozy ira-t-il en prison? On en parle sur BFM. Et on referme cette page BFM avec la réflexion coquine et mutine du jour qui est signée Roselyne Bachelot, ex-ministre et membre des Grosses Têtes. Je vous laisse deviner qui de la ministre ou de la chroniqueuse parlait.
Roselyne, éclairez-nous 2 secondes, parce que vous avez fait quelques conseils des ministres. Pourquoi, dès qu'il y a 2 centimètres de neige quelque part en France, ça marche pas?
Ah oui, oui, c'est souvent comme ça, quand il manque 2 centimètres, ça marche pas.
Eh ben, attends, Roselyne.
Ben oui. Vous l'avez?
Ah non.
Rapport au sexe, enfin bref.
Ah,
oh. L'info, c'est aussi...
Pardon, je t'ai...
Non, mais pas de problème.
Je n'étais pas dedans.
L'info, c'est aussi le match du week-end. Et non, je ne parle pas du match des Bleus. L'autre confrontation, la seule qui vaille, selon votre invité de première partie, Bruno Retailleau, qui a le sens de la vente.
Ce qui va se jouer dimanche prochain dépasse de très très loin le seul enjeu pour l'avenir de notre parti. Parce que ce qui va se jouer concerne aussi l'avenir de notre pays.
Oui, on se calme, c'est pas Avatar 3 non plus, Bruno, c'est le Congrès des Républicains, présent au second tour Ciotti et Retailleau, qui, lors de leur discours, ont tenu à saluer le perdant, Aurélien Pradier. Tiens donc, mais pourquoi ça? Je vous propose d'écouter leur discours en VOTH, c'est la version originale traduite honnêtement.
Je veux également remercier Aurélien Pradier
dont j'ai vraiment besoin des voix, donc donnez-les-moi, s'il vous plaît, car je veux gagner.
Une très belle campagne, une campagne tournée.
Votez pour moi.
Vers le renouvellement, vers la jeunesse.
Je veux saluer tout particulièrement Aurélien, qui a fait une très belle campagne.
Et je lui demande solennellement d'appeler à voter pour moi, s'il vous plaît. Et si d'aventure Aurélien Pradier ne donne pas de consigne de vote, Éric Ciotti et Bruno Retailleau pourront toujours se rabattre sur la SPA la plus proche, car le JDD l'a révélé hier lors du congrès LR. Le journal est parvenu à inscrire deux chats qui ont pu voter pour le Congrès, et ceux qui disent que cette élection est pipée, je leur demande de se taire. Les chats sont des électeurs comme les autres.
Je voudrais évidemment saluer tous nos militants, tous nos adhérents, parce que...
J'appelle tous les militants à se réunir, à se rassembler, ceux qui m'ont témoigné leur confiance au premier tour.
Il avait voté Pradier, celui-ci. Allez, on file à l'international, très vite retrouver Emmanuel Bonisseur de la Batte, le président qui était en goguette aux États-Unis d'Amérique. C'est l'heure de notre page OSS 2022. Habile. Et vive la France, et je remercie Mohamed et Pierre Dehorne pour les images exclusives qui vont suivre Emmanuel Macron, qui a fait poireauter le protocole, mais c'était pour une bien bonne raison. Le président qui a ensuite été victime d'une très mauvaise blague, le fameux gag du siège mal réglé qu'on a tous subi un jour dans nos vies, à moins qu'il ne s'agisse du classique coussin péteur. Vu les rires, j'opte pour la deuxième option, mais impossible de vérifier puisqu'on n'avait pas de micro sur le siège.
Non.
So, thank you so much for being here.
Ouais, vu les rires, c'était un coussin péteur. Emmanuel Macron qui a ensuite joué l'influenceur, on ne le savait pas, mais comme les plus grands influenceurs du web, il possède un compte OnlyFans avec des codes promo.
Good evening. How are you? You got a picture? It's $10.
No.
It's $10, I think.
$10 picture? Oh, come on.
Il a fait la petite
non,
allez, donne-moi ça, j'y connais mieux.
This is a video.
Il sait tout faire, et ma situation. Puis il est reparti tel un cabri, gambadant vers sa voiture avant de saluer la foule tel Miss France, Miss Anjou. Sauf que. C'était pas la bonne bagnole. En revanche, c'était le bon prono, puisque le président avait prédit 3-1 pour la France face à la Pologne. Clairement, le voyant Claude Alexis a du souci à se faire. La relève est là. Envie de savoir ce que l'avenir te réserve? Qui va remporter le mondial? Va-t-on devoir s'éclairer la bougie? À quel âge partiras-tu à la retraite? Pour le savoir, envoie Macron au 49-3 et découvre l'avenir sur ton écran. Macron au 49-3. L'info continue demain et les dates de concert d'Aligné d'Abbé moi. Allez, je suis bonne soirée à demain.
Zénith,
bravo Bertrand.
Monsieur Thomas.
Il n'y a pas de souci, Chantal.
On n'a pas un petit truc? Ah, pardon, bah, prévenez-moi, les gars. Moi, je pensais qu'il y avait un truc. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu ce soir sur le plateau. C'est à vous.
Merci
beaucoup, chère Laura. À bientôt. Ça passe au théâtre des Mathurins. En attendant, le Trianon.
Oui.
Au mois de juin. Si vous voulez bien, vous tournez vers Nicolas pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On sera là demain soir à 19h en direct. Tout de suite sur France 5, la série documentaire Devenir, qui part à la rencontre de jeunes dans leur première année d'apprentissage. Ce soir, Devenir styliste. Avec trois jeunes qui sont à l'Institut français de la mode. Gros bisous, à demain. Ciao.
De la chance à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir.
Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo. Le replay, bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.